dans le cadre de cette Église. Vous savez que depuis le début de l'année, nous avons abordé un seul sujet, un seul thème dans cette Église chaque dimanche. J'ai parlé tous les intervenants, les pasteurs en l'occurrence, Xavier, Ulrich et moi-même. Et le thème, vous le connaissez puisque vous êtes déjà venus depuis le début de l'année. Alors, si c'est la première fois que vous venez, vous allez découvrir, c'est le thème de l'Église que nous avons choisi. Alors, on n'a pas eu de révélation particulière, une vision, un songe, mais on n'a pas forcément besoin de cela pour faire les choses dans la pensée de Dieu. Dieu peut aussi se servir de notre intelligence et en réfléchissant, bien sûr, à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans le cadre de notre Église locale, eh bien, nous avons ensemble pensé que ça serait important, il serait important d'aborder ce thème dans le cadre de l'Église. Nous vivons un moment particulier de l'Église locale. On peut appeler ce moment un moment charnière. Nous allons passer à une nouvelle étape dans notre histoire locale et écrire certainement une nouvelle page. Il y a déjà bien des pages qui ont été écrites depuis plus de 60 ans de la vie de cette Église. Et on va certainement écrire une nouvelle page dans les mois qui viennent. Et donc, je vais continuer, bien sûr, sur ce thème. Ce matin, j'ai choisi de parler de l'Église de demain. L'Église de, je voulais dire de demain matin, parce que ça va très vite arriver. L'Église de demain ne sera pas forcément fondamentalement différente de l'Église d'hier. En tout cas, il ne faut surtout pas dans certains domaines, dans les fondements notamment, mais différente dans d'autres domaines, d'autres aspects. Et tout cela, on aura l'occasion de le voir, non seulement ce matin, mais dans d'autres moments ici, d'autres rassemblements de cette Église. Lorsque le Nouveau Testament parle de l'Église, vous le savez certainement, je pense que vous en êtes convaincus, qu'il est question d'abord de personnes et non pas de bâtiments. Bien évidemment, on va parler de bâtiments et notamment à la fin, dans notre Assemblée générale, il sera question bien sûr de locaux et de futurs locaux. Mais lorsque Paul et Pierre se servent du temple de Jérusalem, parce que là, pour un bâtiment, c'en était un, celui-là, ils s'en servent comme image pour nous aider à comprendre ce qu'est l'Église de Christ. Ils se servent des pierres qui avaient été utilisées pour construire ce temple, ces pierres qui avaient été taillées, façonnées, placées avec beaucoup de précision, comme ça nous a été rappelé, et pour nous parler d'autres pierres, c'est-à-dire de pierres vivantes. Vous n'avez jamais vu des pierres vivantes ? Vous ne savez pas que les pierres vivent ? Les pierres dont on se sert pour construire un bâtiment, elles ne sont pas vivantes, elles sont bien inertes. Mais Pierre, Paul, voulait parler bien sûr de ces pierres que nous sommes comme des pierres vivantes. Et c'est une méthode pédagogique, bien sûr, qui est très efficace quand on s'arrête sur cette image, comme ça a été fait ces dernières semaines, pour mieux comprendre ce qu'est l'Église, comment elle fonctionne, elle s'organise. Et nous avons eu l'occasion, bien sûr, de rappeler, depuis le début de l'année, plusieurs vérités concernant l'Église, des vérités bibliques qui ont été rappelées donc lors de ces derniers cultes. D'abord, il y a eu le thème que Ulrich a pris, celui de l'Église en marche, pour mettre l'accent sur l'importance de l'unité de l'Église. Ensuite, la question a été posée, pourquoi l'Église ? Pour rappeler que ce mot « ecclésia » en grec, mot « église », c'était vrai aussi dans l'Ancien Testament avec le mot hébreu, « kahal », c'était vraiment pour parler d'une assemblée, d'un peuple qui se rassemble, comme il y avait ces saintes convocations dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était appelé à se rassembler plusieurs fois par an pour adorer Dieu, pour apporter à Dieu des sacrifices. Donc, il nous a été rappelé que l'essentiel de l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, en fait, pour qu'on soit ensemble afin là, de nous rapprocher de Dieu, d'écouter sa parole, bien sûr, et de faire bien, bien d'autres choses. Ensuite, nous avons été question de l'Église comme étant la maison de Dieu aussi, pour le lieu de la présence de Dieu, en fait. Là où deux ou trois sont réunis, vous connaissez la suite, c'est là que Dieu est présent, c'est là qu'il se manifeste de manière particulière. Donc ça a été rappelé à cette occasion. Et puis, il a été rappelé aussi que l'Église, elle est faite, comme je disais à l'instant, de pierre vivante, pour reprendre cette image de l'apôtre Pierre. Et ces pierres qui sont taillées, qui sont façonnées, et qui reposent sur une pierre principale, qui est Christ, bien évidemment. Tout cela, ça nous a été rappelé à cette occasion, pour mieux comprendre qui nous sommes, hein, dans cette église. Et puis la semaine dernière, je n'étais pas là, mais j'ai écouté ce qui a été partagé par Xavier sur le thème de l'église, le projet de Jésus. C'est vraiment son projet à lui, et lui-même a donné sa vision de l'église. Et ça a été rappelé, bien sûr, que là, la vision de l'église, elle est, j'ai envie de dire, elle est nos limites. Sur le plan géographique, ça commençait petit, à Jérusalem, c'était pas très difficile pour les apôtres à ce moment-là, la Judée aussi, la Samarie, ça commençait à se compliquer un peu, et puis alors, le reste de la terre, des extrémités de la terre, enfin, ça devenait plus compliqué d'aborder ce monde païen pour les apôtres, et on voit comment voilà, Dieu s'y est pris pour amener ses premiers apôtres à réaliser cette vision. Alors bien évidemment, nous, concernant le plan de ce matin, je ne sais pas si ça a été passé, donc le plan, on va s'intéresser à la vision de l'Église, et ensuite on parlera un peu plus du bâtiment, la place que le bâtiment peut avoir dans le cadre d'une Église locale, parce que bien évidemment, on va parler de ça aussi. Rappelant la vision, bien sûr, que Christ a donnée à ses disciples pour l'Église, je disais qu'elle n'a pas de frontière, en fait. Hein, on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut toujours retenir cela, bien évidemment. Même si nous sommes dans un territoire donné. Ici, nous sommes dans une région de France, dans une ville de France, dans un territoire bien circonscrit, et la vision est d'aller d'abord, bien sûr, dans ce territoire là où nous sommes. Pour nous, c'est Angers, c'est aller dans toutes dans tous les quartiers, dans toutes les villes, les rues de cette ville, les régions aussi, dans cette région et les villes qu'il peut y avoir dans cette région. On a déjà commencé quand on prend l'exemple de Saumur et de Cholet, ça a été la vision missionnaire des fondateurs de cette Église. Et même lorsque l'Église se trouve bien évidemment à travailler dans un endroit particulier comme nous le sommes ici, on n'oublie pas que la vision de l'Église, c'est les extrémités de la terre, en fait. Une manière pour nous de réaliser cette vision à notre niveau, c'est que Jésus a donné, c'est d'envoyer des missionnaires dans un autre parti. Il y a une influence politique là, en ce moment. Il y a trop de discours dans ce domaine. Dans une autre partie du monde. Et lorsque nous aidons, par exemple, financièrement, le pasteur Cornel en Roumanie, c'est une manière encore d'accomplir cette vision, en fait. On fait depuis plus d'une vingtaine d'années. On soutient des frères et des sœurs qui sont dans un autre pays et qui ont des besoins économiques importants, et on y participe, et c'est notre manière encore de réaliser cette vision. Donc notre champ, c'est vraiment la terre, en fait, et on y participe aussi lorsqu'on prie pour ces différents pays, pour les chrétiens d'autres régions du monde, lorsqu'on soutient financièrement des missionnaires. Alors, vous avez certaines églises qui le réalisent de manière encore plus concrète, plus forte, on pourrait dire. Lorsque, à partir d'une église locale, ils vont implanter d'autres églises locales. C'est le cas, par exemple, avec Hillsong. Tout le monde a entendu parler d'Hillsong. C'est parti d'une église à Sydney, une église locale, et puis qui crée un mouvement véritablement et qui se répand à travers le monde et qui accomplit la vision de Jésus, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je connais une autre église à New York, l'église de Redeemer de Tim Keller, qui fait exactement la même chose. Et il y a d'autres églises comme ça qui s'implantent et qui se multiplient sur d'autres, dans d'autres pays, sur d'autres continents. Je ne sais pas si ça arrivera un jour à l'église d'Angers, qu'on implantera comme ça d'autres églises, mais en tout cas, ça, c'est la vision. Ça fait partie de la vision. Nous sommes certainement à un moment historique. Alors, utiliser ces mots-là, il faut faire attention. On parle de notre église locale, bien sûr, à notre échelle, à nous. Dans le sens où nous entrons dans la troisième étape, grande étape. Il y a eu pas mal d'étapes, mais il y a eu des grands moments dans l'histoire de cette église locale. Et vous connaissez les deux premières étapes. Il y a eu l'étape de la première génération, la génération des pionniers de cette église, ceux qui sont venus, qui ont implanté, qui ont travaillé pour créer cette église dans les conditions que vous connaissez. On a eu l'occasion de le rappeler, notamment lors du 60e anniversaire, il y a 4 ans. Et ça a été une étape, bien sûr, importante, une étape faite de beaucoup de sacrifices, hein, d'engagement de la part de cette première génération. C'est celle qu'on a appelée la génération Abraham, qui a été suivie il y a une douzaine d'années par une deuxième étape avec la deuxième génération qu'on a appelée la génération Isaac, la génération trait d'union, en fait. Pour faire cette transition, ça a été mon ministère et avec vous tous, bien sûr, et puis particulièrement cette deuxième génération dans l'Église qui est rentrée activement dans le service. Et on a fait ce travail ensemble. C'était pour cela que j'avais reçu cet appel pour rester plus longtemps dans cette Église. Et je ne rappelle pas ce que vous savez, même s'il y en a certainement quelques-uns qui ne connaissent pas cet aspect de notre histoire, mais pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien les détails de cette étape-là. Et bien évidemment, lorsqu'on est dans une étape de transition, on sait qu'il y aura une autre étape qui suivra. On est vraiment entre deux moments. Et la prochaine étape, avec la troisième génération, c'est celle qu'on a appelée la génération Jacob, c'est-à-dire la génération multiplication. Ce n'est pas un mot comme ça qui vient, et je pense que c'est quelque chose qui a été, qu'on a reçu, que j'ai reçu personnellement, j'ai partagé bien des fois avec l'Église, et c'est quelque chose que l'on voit venir petit à petit, qui se met en place, en fait. La vision, c'est d'aller vers cette multiplication. L'accent va être mis là-dessus, en fait. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de multiplication, il n'y avait pas cette vision-là, bien évidemment. Ça a toujours été, quand on lit les comptes rendus des conseils d'administration de la première génération, on voit qu'ils avaient une vision missionnaire et qu'ils voulaient se multiplier. C'était le but. Mais ça va être particulièrement l'accent de cette troisième étape, et c'est ce qui nous a amené à réfléchir sur notre organisation, la structure, sur les activités à mettre en place, sur les ministères, pour favoriser cette multiplication, c'est-à-dire le projet, un projet d'église sur lequel nous réfléchissons pour favoriser cette multiplication. Et pour cela, nous avons deux besoins, deux choses qui seront nécessaires pour aller vers cette multiplication. Le premier besoin, c'est un besoin d'espace, un besoin donc de locaux, de bâtiments, qui soient adaptés pour accueillir les nouvelles personnes. Parce que qui dit multiplication dit nouvelles personnes, plus de monde, pour réaliser aussi les activités de l'Église, celles qui sont déjà en place, celles qui vont se mettre en place, qui vont concerner notamment la formation de plus en plus, et d'autres activités, d'autres services dans l'Église. Donc le besoin d'un espace, d'un lieu. Ensuite, le deuxième besoin, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, on reviendra là-dessus plus tard, c'est le besoin d'ouvriers. Besoin d'ouvriers. C'est C'est là-dessus que Jésus nous a demandé de prier, ou a demandé à ses disciples de prier, d'envoyer des ouvriers. Alors quand on parle d'ouvriers, on ne parle pas uniquement de pasteurs, hein, de responsables d'église. On parle d'hommes et de femmes qui sont engagés dans un service. On est tous appelés à servir. On a tous reçu des dons et des capacités particulières, et ces dons ils sont là pour l'église en fait, pour l'œuvre de Dieu. Alors, il y a ceux qui ont saisi cela, qui ont bien compris cela et qui participent. Puis il y a ceux qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas encore saisi quelle était leur place, leur rôle, leur ministère. Et le rôle de l'église, c'est justement d'accompagner, de former, d'aider, pour que chacun puisse entrer dans le service. Parce qu'il faudra que tout le monde soit à son poste, j'ai envie de dire, si nous voulons aller vers cette multiplication. Ça passera d'abord par les ouvriers. Un local est nécessaire, un bâtiment, bien évidemment, et particulièrement dans nos pays, on ne peut pas faire sans, hein, surtout aujourd'hui. Si on vous avait donné rendez-vous à la forêt autour d'Angers, je ne sais pas si on serait aussi nombreux ce matin. Bien évidemment, on est tributaire de cela, ça fait partie des contingences, hein, pour les êtres humains que nous sommes. On a besoin d'un lieu d'habitation, d'un lieu pour se rassembler. Et bien évidemment, ça doit être compte tenu de la région où nous sommes. On ne peut pas simplement mettre quatre poteaux, une tôle, et puis ça va. Et puis on se rassemble, comme ça peut être fait dans d'autres pays. Nous avons en plus des contraintes qui sont de plus en plus importantes, nombreuses, pour nos rassemblements de sécurité et autres. Et voilà, donc ça fait partie, bien sûr, des besoins. Mais le besoin le plus important, ça restera, bien évidemment, puisque l'Église est tournée vers des hommes et des femmes, et ce sont d'abord des hommes et des femmes qui forment l'Église, et donc un besoin d'ouvriers. Mais, puisqu'on est là, nous sommes là aujourd'hui pour prendre ensemble une décision par rapport à nos locaux, ce lieu dans lequel nous sommes depuis près de 50 ans. Il n'est pas certainement inutile de parler de cet aspect qui concerne l'Église, la vie de l'Église, bien évidemment, et c'est ce que je voudrais faire pendant quelques minutes. La nouvelle étape pour cette Église, ça sera effectivement de passer, d'avoir de nouveaux locaux. Quand on parle de bâtiments d'Église, et qu'on cherche à savoir, mais quel est l'intérêt, la priorité pour ce bâtiment, on peut résumer en une phrase, c'est de permettre à un groupe de chrétiens, donc à l'Église, de se rassembler ou de se réunir. C'est bien ce que nous faisons ici, ensemble encore ce matin. C'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de locaux. Pour avoir nos activités spirituelles, notamment. Celles qui nous sont données, par exemple, dans Acte 2, 42. Prier, louer, adorer Dieu, écouter la parole, recevoir la parole, l'enseignement biblique, sous différentes formes, bien évidemment. Le repas de Sainte-Cène que nous avons partagé, c'est précisé dans Acte 2, 42. C'est ce qui est au cœur de nos rassemblements. C'est l'œuvre de Christ, la personne de Christ, et son œuvre dans sa crucifixion et sa résurrection. C'est ce qui nous est rappelé, bien évidemment, au travers de ce repas que nous partageons lorsque nous nous rassemblons le dimanche. Et puis la communion aussi, la communion fraternelle. Le fait d'être ensemble et de se soutenir les uns les autres, de s'encourager, de voilà, s'entraider, etc. Ça fait partie de la vie de l'Église, en fait. Et on a besoin d'un lieu pour cela, bien évidemment. Et le lieu sert à cela, en fait. C'est l'intérêt de ce lieu. On ne peut pas se réunir comme ça n'importe où, on a besoin d'un lieu particulier. Alors ce qu'il faut éviter, bien sûr, et l'histoire du christianisme est là pour nous le rappeler, c'est de donner trop d'importance et trop de valeur ou un trop grand attachement à un lieu. Là, il y a quelque chose d'humain, là, vous voyez. Il y a quelque chose de personnel, de sentimental même. Bien évidemment, pour beaucoup d'entre nous, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Certains étaient là au moment où ce bâtiment a été construit. Il y a forcément un attachement, c'est naturel. Mais il faut toujours faire attention à cela. L'église d'Angers, cette église évangélique, dans son histoire, elle a connu trois lieux différents. Elle a connu, on appelait ça pas une église, on appelait ça une salle. Vous vous souvenez, les anciens ? On disait, on ne va pas à l'église. Non, on ne disait pas ça, non. On disait, on va à la salle. On va à la salle. La salle évangélique. C'est comme ça qu'on parlait. Vous vous souvenez de ça ? On a connu trois salles. Alors, je n'ai pas de photo de la première. Elle est trop ancienne pour moi. C'était une petite salle. C'était la première dans la Doutre, la rue Drouard. Il y en a qui ont connu la rue Drouard ? Ouais. Lily, hein ? Il y en a quelques autres. On n'est pas resté très longtemps dans cette rue Drouard. Or, c'est une salle qui pouvait réunir, je sais pas, 30, 40 personnes, à peine. À peine. Il y avait des bancs, donc on en mettait plus au mètre carré. C'était avantageux. Il y a une anecdote qui est intéressante à ce sujet-là. C'est qu'un jour, c'est mon père, je crois, qui avait repeint les bancs. Je ne sais pas à quelle période de l'année il avait fait ça. Avec les peintures de l'époque, vous voyez, qui n'arrivaient pas à sécher. Donc quand la première réunion est arrivée, alors, vous touchiez comme ça, c'était sec, mais si vous mettiez vos 80 kilos dessus, c'était plus sec du tout, vous voyez ce que je veux dire ? Et il y avait une brave dame qui est venue ce jour-là avec un manteau jaune. Elle s'est relevée, elle avait deux barres. Et ils ont passé un moment à nettoyer. C'était l'époque. C'était l'époque. Il y en a bien d'autres anecdotes. Et puis la deuxième salle, il y en a plus qui l'ont connue certainement, c'était rue Maillet, c'était de l'autre côté du boulevard. Là où il y a eu ce drame, il y a quelques mois de cela, ça a été dans les médias. Et c'est dans cette rue-là que la deuxième salle évangélique de cette église s'est trouvée pendant à peu près une douzaine d'années. Alors ça ressemblait à quoi ? Vous voyez, ça ressemblait à ça. Derrière, vous avez la porte d'entrée. Vous avez la pancarte. Devant, vous avez, si vous reconnaissez certaines personnes, il y en a qui se reconnaissent un peu. Voilà. Il y a Madame Leroux qui est devant, là, avec Liliane derrière, Monsieur Leroux à côté, et puis Franck Attimon. Et puis derrière, c'était le groupe de jeunes de l'époque. Ils ont un peu changé hein, depuis. Hein. Si vous reconnaissez. Et puis, la photo d'en bas, c'est pareil. C'est devant la porte d'entrée avec quelques jeunes de l'époque. Il y en a qui vont se reconnaître. Quelques-uns qui sont ici. Et donc, ça, c'était l'entrée de la salle. C'était un garage collectif qu'il y avait derrière. Et puis, sur le côté, il y avait un local. Un local qui n'était pas grand au départ et qui a été agrandi deux fois, en fait. Puisqu'il y avait de plus en plus de monde. Et le propriétaire avait donné l'autorisation de prendre un peu sur le parking collectif. Et lui, de toute façon, il faisait plus cher la location, il n'y perdait pas. Et donc, ça nous a permis d'être là pendant une douzaine d'années. Au début, c'était un plancher en bois. Et puis... C'est un endroit de la ville d'Angers qui peut être sujet aux inondations. Et une année, on a connu une grande inondation. Toute la salle était inondée, vous imaginez, avec le plancher. Donc il y avait des chrétiens de cette église de l'époque qui ont travaillé pour faire un plancher en béton et donc qu'il soit plus résistant au moment des inondations. L'intérieur, vous voulez voir l'intérieur ? L'intérieur, c'était ça, vous voyez. Alors, vous aviez des belles chaises en bois. Alors, ces chaises-là, Celles-ci, remarquez, elles sont de bonne qualité, hein, parce qu'elles ont près de 50 ans aussi. Hein. Les blanches, elles sont. Mais ces chaises en bois, là, elles étaient éternelles. Elles pouvaient aller jusqu'au millénium sans problème. Et vous voyez, vous aviez du monde. Alors, on reconnaît certains qui sont là derrière. C'était encore la mode des chignons, des foulards, et voilà, un peu tout cela. Et il y avait à peu près une centaine de personnes quand on a quitté pour venir ici. Et puis, derrière, vous aviez, alors la photo du haut, vous aviez donc un grand rappel que Christ est mort pour nos péchés. Et le micro, j'aime bien le micro, vous voyez le micro. Vous avez sur le côté à gauche, vous avez la sono de l'époque, vous voyez. La sono de l'époque, c'était ça. Et la sono, elle était, vous savez où? Elle était dans le bureau du pasteur. Parce que là, sur le coin de l'estrade, c'était le bureau. Il y avait un rideau. Et là, voilà, c'était un bureau, le bureau de l'époque. Alors, c'est le bureau aussi dans lequel les enfants qui étaient passage. Alors, j'en fais partie. J'ai longtemps visité ce bureau de l'époque. Alors, j'avais pas 25 ans, je vous rassure. Et donc, ça, c'était l'intérieur. Même au départ, il y avait un poêle qui était au milieu, hein, et qui prenait une bonne partie de la place. Ça a été jusqu'en 70. En 70. Le point commun entre la première salle et la deuxième salle, vous savez quoi? Il y a un point commun. C'est que si vous les cherchez aujourd'hui, vous ne les trouverez pas. Elles ont été rasées. Ce n'est pas nous qui les avons rasées. D'autres l'ont fait pour nous. Et devinez quoi? Ici, ça sera pareil. Ça sera rasé aussi. Ce n'est pas nous qui allons le faire, mais on va le faire pour nous. Peut-être que nous, on aurait du mal à le faire. Ça nous ferait un peu mal au ventre. Hein. Mais on va le faire pour nous. Donc, vous voyez que les bâtiments, ils ont une valeur fonctionnelle, ça c'est sûr, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. C'était la même chose, bien sûr, pour les premiers chrétiens. Hein. Les premiers chrétiens, vous savez, ils se réunissaient pas dans des cathédrales, hein. Ils se réunissaient dans des maisons. D'abord ça, les premiers lieux de l'Église ont été des maisons. Des chrétiens qui mettaient à disposition leurs biens pour accueillir d'autres chrétiens, et c'est dans des maisons qu'on se réunissait. C'est encore le cas pour bien des églises. Il y a même des églises qui ont des réunions de maisons, en fait. Donc, ça a été le cas pour cette église-là, cette salle. Un jour, il a fallu la quitter parce qu'elle était trop petite et on ne pouvait pas faire une troisième extension, ce n'était pas possible. Donc il fallait quitter cette salle, ce bâtiment pour un autre bâtiment, et ils ont trouvé à cette époque, ici, il y avait un bâtiment qui était à vendre. C'était un bâtiment, c'était des garages collectifs encore, on était souvent dans des garages, et en bois, et ce bâtiment était à vendre. Alors, j'ai rappelé cela au début de l'année, il y a d'autres occasions. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de notre histoire ici, elle est intéressante parce qu'on est dans un moment un peu identique aujourd'hui. Il y avait ici un bâtiment qui était à vendre. Il y avait à côté de cela une vieille maison sur la rue de Rennes. Et à l'époque, le tout était à vendre en euros, aujourd'hui 17 000 euros. Là, aujourd'hui, on pourrait faire un chèque sans problème et payer. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas assez. Et il s'est passé deux choses, en fait. Il y a eu d'abord une chrétienne de cette église qui est décédée à ce moment-là et qui avait légué tous ses biens à l'association, à l'église. Elle était célibataire, elle n'avait pas d'enfant. Et la somme que l'Église a reçue était à peu près à la moitié du prix de ce bâtiment qui était à vendre. Donc c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Et Et c'est la raison pour laquelle, quand mon père a réfléchi à cela, a prié pour cela, il a eu l'idée de demander au propriétaire d'acheter la moitié seulement. Parce qu'avec la moitié, on pouvait acheter ce qui aurait été la salle principale, mais pas toutes les annexes, l'appartement, etc. Donc il a demandé si c'était possible, et le propriétaire a répondu que ça n'était pas possible. Et donc, à ce moment-là, il a dit, bah, tant pis, on ne peut pas acheter. C'est dommage, on aurait bien aimé, mais on ne peut pas. Et au moment où il a dit ça, il a eu cette pensée qui est venue, on parlait tout à l'heure d'être conduit par l'esprit. Il a eu cette pensée reconnue venant de Dieu qui lui a dit, achète tout. Achète tout. Avec quoi? À ce moment-là, il n'y avait pas d'argent. Pas assez, en tout cas. Donc, par la foi, il a appelé l'agent immobilier. Il lui a dit, on achète tout. L'agent immobilier qui venait d'entendre avant, on ne peut pas tout acheter parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il lui a dit, alors, vous avez de l'argent? Il dit non. On achète quand même. Il a dû se dire, cela, c'est un peu bizarre. Sale évangélique. Et dans la même journée, en fait, ça, c'était le matin et dans l'après-midi, il y avait le pasteur de Tours. J'ai mis la photo de... Voilà, c'est M. Lefebvre, avec M. Leroux et puis un des fils, Lefebvre. Et dans la rue Maillet, je ne sais pas si c'était ce jour-là, je ne pense pas. Mais M. Lefebvre est venu à Angers, il y avait la réunion l'après-midi, et après, ils ont discuté ensemble, et dans la discussion, M. Lefebvre a eu le malheur de dire, on a de l'argent en caisse, on ne sait pas quoi en faire. À l'église de Tours, c'était des riches à l'époque. C'était très riche. Et il était comptable, M. Lefebvre, il savait. Et donc, et mon père lui a dit, écoute, je vais te dire ce que j'ai fait ce matin. Et si tu peux me réparer ça, ça serait gentil. Il lui a raconté ce qu'il avait fait. Et il lui a dit, c'est pour vous. C'est pour vous. Et donc, on a pu avoir l'argent pour acheter le tout. Et vous imaginez, si ça n'avait pas été fait, on ne serait pas resté 50 ans ici. On serait peut-être resté 10 ans, 15 ans, mais pas beaucoup plus. Il y a eu une conduite de Dieu, il y a eu un acte de foi aussi. Et nous vivons encore aujourd'hui, 50 ans après. C'est ça qu'il faut essayer de mesurer. Sur la foi, sur l'engagement, sur les sacrifices de cette génération de chrétiens. Nous sommes dans une salle, dans des locaux, nous ne payons rien aujourd'hui. Que l'entretien, les charges bien sûr, mais pas, il n'y a pas de location. Imaginez si on devait payer une location pour ces bâtiments-là, ce qu'on paierait par mois, plusieurs milliers d'euros, certainement. Si on n'a pas ce genre de charges financières, c'est parce que la première génération s'est engagée pour réaliser cette construction. Et la construction, elle a été réalisée de manière providentielle, on peut dire. Parce que se lancer dans une construction à cette époque, c'est toujours pas simple aujourd'hui, mais ça n'était pas non plus à l'époque. Et il n'y avait pas de spécialiste dans l'église, architecte, ingénieur du bâtiment, des métiers qu'on peut avoir dans l'église aujourd'hui. Et Dieu est intervenu par un homme providentiel. Cet homme providentiel, il avait son épouse qui était dans cette église. Et il était à l'époque le directeur de la Soclova. La Soclova, c'est l'un des plus grands bailleurs ici sur Angers. Et de logements. Et il a dit à son épouse, quand il a su qu'il y avait ce projet de construction, il a dit, je voudrais bien rencontrer le pasteur, ton pasteur, parce que j'ai une proposition à lui faire. Mon père est allé le voir. Si vous demandez plus de détails, vous allez voir ma mère, elle était là ce jour-là avec lui. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, depuis que mon épouse vient dans votre église, sa vie a totalement changé. Parce que sa vie a totalement changé, ma vie a changé aussi. Et je me sens redevable à votre église. Il est venu deux fois dans cette église. Il est venu le jour de l'inauguration et le jour du décès de sa femme. Il a dit, mais je vous propose d'être votre maître d'œuvre pour cette construction. De me charger de tout. Architectes, les entrepreneurs, les entreprises, etc. Et si vous avez besoin d'un crédit, je suis prêt à me porter caution pour cela. Et à mettre ma maison en hypothèque. Ça, si ce n'est pas un homme providentiel. Et il était prêt de le faire, il n'a pas eu besoin de le faire, mais il était prêt de le faire. C'est comme ça que ce local, ce bâtiment aujourd'hui, dont nous profitons depuis près de 50 ans, s'est réalisé en fait. C'est à notre tour aujourd'hui, pour cette génération-là. Quel que soit le projet immobilier qui est devant nous, les locaux dont nous aurons besoin, que nous pourrons acquérir, il faudra toujours se rappeler que ça ne reste que des moyens pour accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Et c'est pour cela que je voudrais faire un petit rappel biblique ce matin qui va nous montrer quelque chose d'important concernant ce bâtiment, justement. Ce futur bâtiment, on ne sait pas encore où il va se trouver, on ne sait pas quelle forme il aura, on ne sait même pas dans quel lieu de la ville il va se trouver. Et on apprend cela en lisant le texte du livre d'Esdras au chapitre 3. On va revenir quelques instants sur cet épisode de l'histoire d'Israël qui nous rappelle que même dans l'Ancien Testament, où le temple, on le sent, avait une importance particulière, ce n'était pas le plus important pour Dieu. Et dans ce moment-là de l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, le peuple d'Israël a aussi réalisé que ce n'était pas le plus important. Il avait compris à ce moment-là. Ça n'a pas toujours été le cas, certainement, dans toutes les générations. Il y a peut-être des fois même un regard assez superstitieux par rapport à ce bâtiment. Cet épisode de l'histoire d'Israël, c'est lorsque le peuple va revenir à Jérusalem. On va avoir l'autorisation, qui était exilé à Babylone, de revenir de son exil à Jérusalem. Les détails de cette période historique, période charnière, bien sûr, dans l'histoire de ce peuple, nous les trouvons dans plusieurs livres de l'Ancien Testament. Dans le livre d'Esdras, bien sûr, dans le livre de Néhémie, et dans deux livres prophétiques, le livre du prophète Agée et le livre du prophète Zacharie. C'étaient les prophètes de l'époque. Donc nous avons pas mal de détails sur les circonstances, ce qui s'est passé à ce moment-là. On sait que le retour a été rendu possible grâce au nouveau roi de Perse, Cyrus. Il avait mis de côté les Mèdes et c'était devenu l'Empire Perse. Et le roi Cyrus a donné l'autorisation aux exilés de Juda à Babylone de retourner à Jérusalem. Exactement comme Jérémie l'avait annoncé, l'avait prophétisé. Il avait même dit que ce serait un exil de 70 ans en fait. Et Ésaïe était allé même plus loin. Ésaïe, il avait annoncé que ça serait Cyrus qui donnerait la possibilité aux exilés de revenir à Jérusalem pour rebâtir Jérusalem. On voit la précision prophétique. Alors, il y en a, pour certains, ça les dérange. Ça les dérange tellement qu'ils disent, oh là, Ésaïe, il y a eu deux auteurs. Il y a eu un premier avant et puis il y a un autre après. C'est plus facile, bien évidemment, si ça s'est passé, de parler de Cyrus. Et donc, Esdras fait partie de ces premiers à revenir à Jérusalem. Esdras, c'était un lévite, un prêtre. Il était très concerné par le temple, par tout ce qui touchait le culte en Israël. Et quand il est arrivé, bien sûr, il savait, on l'avait annoncé aux exilés, mais ça a dû être un choc psychologique énorme de voir toute cette ville rasée, et particulièrement le temple de Jérusalem rasé. Quand ils ont rasé le temple, ils n'ont pas enlevé seulement les pierres, ils ont ôté les fondements, les fondations. Il n'y avait plus rien. Il fallait tout recommencer à zéro. Mais l'intérêt de cette histoire, on va juste s'arrêter là-dessus, on s'arrêtera sur d'autres aspects plus tard. Mais l'intérêt de cette histoire, de cet épisode, c'est de nous montrer que de quelque chose de très inattendu. Dans la chronologie des événements, on s'attend bien évidemment à ce que les exilés qui vont revenir à Juda, quand ils vont voir la ville rasée, le temple rasé, ils vont d'abord vouloir reconstruire le temple. Et c'est d'abord le temple qui va être reconstruit. Ensuite, avec Néhémie, il y aura les murailles, parce que Néhémie va venir dans une deuxième vague, parce qu'il va apprendre que la ville n'est pas reconstruite, les murailles non plus, donc il va... Mais c'est le temple. Et on se dit, certes, ils vont reconstruire le temple, et c'est une fois que le temple sera reconstruit qu'ils vont à nouveau pratiquer le culte. À nouveau, ils vont adorer Dieu, à nouveau, ils vont pouvoir se tourner vers Dieu. On s'attend à cela. Ils n'avaient pas fait depuis 70 ans. Ils en ont été privés. Quand ils étaient à Babylone, il n'y avait plus de temple, bien sûr, et alors il n'y avait plus de sacrifices. Beaucoup pensent que c'est à partir de cette période que la synagogue a été créée, un lieu dans lequel les exilés pouvaient se réunir, mais ils ne gardaient que quelques activités religieuses, spirituelles, c'est-à-dire la prière, la lecture de la parole. Vous avez reproduit un lieu qui symboliquement ressemblait au temple, hein. Les rouleaux de la loi étaient dans un lieu qu'on appelait le saint, le saint des saints. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça s'était limité à cela, en fait. Il n'y avait pas de sacrifice. Ils ne pouvaient pas faire de sacrifice. C'était fini, cela. Donc, ils revenaient à Jérusalem et, à nouveau, ils pouvaient refaire des sacrifices. Donc, reconstruire le temple pour, à nouveau, faire des sacrifices. Et là, la surprise... C'est quand on lit ce récit qui nous raconte ce qui s'est passé au chapitre 3. Et je vais vous lire une partie de ce chapitre 3. Il nous est dit « Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs et Zorobabel, fils de Shéatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel. Les holocaustes du matin et du soir, ils célébrèrent la fête des tabernacles. C'était au moment de la fête des tabernacles, pour se rappeler, bien sûr, de cette période passée dans le désert pendant 40 ans, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, le roi de Perse. Et là, c'est quand même très surprenant et très intéressant, dans le sens où ils vont, même sans temple, ils vont quand même adorer Dieu et louer Dieu. Comme c'était fait avant que le temple soit construit, avant même que le tabernacle soit construit dans le désert, comme les patriarches le faisaient notamment. De s'approcher de Dieu. Ils vont commencer par l'adoration avant la construction de ce temple. En somme, ils voulaient dire, on n'a pas besoin de ce temple pour s'approcher de Dieu. Très bien d'avoir ce temple, très utile bien évidemment, mais on n'a pas besoin, on peut s'approcher de Dieu sans temple. Dieu n'a pas besoin d'un temple. C'est la même chose pour nous, bien sûr. Si c'était vrai déjà dans l'Ancienne Alliance, vous imaginez dans la Nouvelle Alliance, où il n'y a plus de temple du tout. Le temple a été rasé. Et Jésus dira, ce n'est pas sur cette montagne, mais les adorateurs que le Père cherche sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, et on peut l'adorer en tout lieu, à tout moment. Donc, quel que soit le bâtiment, ce bâtiment-là n'a qu'une valeur fonctionnelle. Le plus important pour l'Église, ce sont les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel de Dieu, parce que le temple spirituel de Dieu, c'est l'Église aujourd'hui, c'est pierres vivantes. Ça a été rappelé plusieurs fois ces dernières semaines. Le lieu est important, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas son importance. Les locaux ont leur importance. Notamment dans une stratégie missionnaire. Bien évidemment, il est préférable, si on veut avoir si on a une vision missionnaire, d'être dans un endroit de la ville qui soit visible. Si on se met dans une impasse, ce n'est pas tellement le but recherché. Le but recherché, c'est que les habitants de cette ville sachent qu'on est là. Donc le lieu a aussi une valeur stratégique, bien évidemment, par rapport à la vision que nous avons. La proximité avec ceux que nous voulons aborder, ceux que nous voulons approcher plutôt, que nous voulons atteindre. C'est la raison pour laquelle le fait d'avoir, dans cette proposition qu'on va faire ce matin, d'avoir un pied à terre encore ici, rue de Rennes, pour l'avenir de cette église, un local dans ce quartier, en plus d'être dans le centre-ville, auprès d'un campus universitaire avec une résidence d'étudiants, c'est la proximité, bien sûr, qui fait qu'on va pouvoir aussi remplir notre mission de manière plus efficace. Je termine, parce qu'on reviendra là-dessus. Pour l'Église de demain, le plus important, ça restera bien évidemment ces pierres vivantes, mais des pierres vivantes qui sont préparées, qui sont taillées, qui sont façonnées, qui sont placées pour la mission qui est devant nous, en fait. Et je pense que ce temps qu'on a attendu, parce que ça fait un moment qu'on en parle, près de 5 ans, ce temps qu'on a attendu, ça a été un temps utile pour bien des raisons, on a eu l'occasion de les rappeler, mais notamment pour préparer l'Église, pour nous préparer. Cette préparation, elle a commencé, mais elle doit se poursuivre. Elle va se poursuivre dans les mois qui viennent. Et je voudrais donner un avertissement pour terminer. Nous avons lu un extrait du chapitre 3 d'Esdras. Mais pour tout vous avouer, j'ai surtout été attiré par le chapitre 4. Vous allez dire, c'est quoi le chapitre 4 ? Il y en a qui le connaissent déjà. Chapitre 4 nous parle de l'opposition que ces bâtisseurs vont rencontrer, qui va les empêcher de mener à bien cette construction. À tel point que cette construction du temple, reconstruction du temple qui avait bien commencé, elle va s'arrêter, vous savez, pendant combien de temps ? Pendant 17 ans, 18 ans. 17, 18 ans. Parce qu'il va y avoir une véritable opposition. Et croyez-moi, je sens cette opposition venir. Et si on est prévenu qu'elle vient et qu'elle viendra, c'est à nous de nous préparer. Et nous mobiliser dans la prière. Parce que, croyez-moi, ça a été le cas pour les deux dernières étapes ça sera le cas pour la troisième étape de cette église. Il y en a un qui surtout ne veut pas qu'on y arrive. Et on ne peut pas s'attendre à autre chose que de rencontrer l'opposition, d'une manière ou d'une autre. On aura l'occasion d'en reparler, mais je donne cet avertissement. On pourrait avoir le sentiment, avec ce qui s'est passé là, que tout va se passer. Il suffit de faire le chèque, et voilà, on va chez le notaire, et puis boum, on fait nos valises, et dans quelques mois, on est dans notre nouvelle maison. Je crains que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passera comme ça, mais au travers d'obstacles, de choses qui vont ralentir, d'événements. Donc il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. La vie chrétienne, on le sait, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On le sait sur le plan personnel, mais sur le plan de l'Église, c'est la même chose. L'Église en général, l'Église universelle, mais l'Église locale. Et quelles que soient les églises locales, si on reprend l'histoire de toutes les églises locales, on verra ça. On verrait ça. C'est la même chose ici. Donc c'est là-dessus qu'il faut être préparé. Il a été rappelé ce matin avec beaucoup de force, de plusieurs manières, que ce que nous avons à notre disposition, c'est Dieu lui-même au travers de son esprit pour nous conduire, pour nous montrer la route, pour nous diriger. Ça a été le cas pour la première génération, ça sera encore le cas pour cette génération aujourd'hui qui doit prendre ce genre de décision. Donc à nous d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour l'Église. Il saura nous le dire en son temps, il ne va pas tout nous dire tout de suite, ça c'est sûr. Il nous dira les choses au fur et à mesure, mais à nous d'être justement à l'écoute tout le temps, parce que c'est au fur et à mesure qu'on reçoit. À chaque étape, petite étape. Donc, je vous donne en même temps un avertissement. Ce n'est pas pour nous décourager, au contraire. C'est d'être réaliste, parce que c'est l'enseignement de la Bible, et c'est pour nous aider les uns les autres à savoir comment réagir dans de telles situations. Alors nous allons prier pour ça pendant quelques instants, si vous voulez bien, avant de terminer ce culte. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ton Église, parce que c'est d'abord ton Église, Seigneur. C'est toi qui l'as bâtie, et tu l'as bâtie encore, Seigneur. C'est toi qui l'élèves, et c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés à en faire partie. Nous sommes honorés, Seigneur, d'en faire partie. Nous savons le prix que tu as payé pour que nous fassions partie de ton Église. Cela, pour nous, se traduit par faire partie de cette Église locale, qui a son histoire, qui a ses différentes étapes et qui est devant une nouvelle étape. Et nous sommes là ensemble, Seigneur, devant toi, ce matin à la fois pour te remercier et te louer pour tout ce que tu as fait avec les générations précédentes, pour leur foi, pour leur engagement, pour leur sacrifice. Seigneur, dont nous bénéficions encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous, aujourd'hui, dans ce nouveau pas de foi, dans cet engagement que tu nous donnes et les sacrifices que nous devrons faire, te prions que nous soyons à la hauteur de cela et que nous puissions y répondre comme la première génération a répondu. Te prions pour cela, Seigneur. Alors nous savons qu'il y aura une opposition sous une forme ou sous une autre. Et nous voulons nous y préparer, Seigneur, et te demander de nous donner de bien réagir, de nous laisser conduire par toi, Seigneur, pour savoir comment répondre, quoi répondre. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que nous croyons que ce plan-là, c'est le tien, Seigneur, et que tu vas l'accomplir, Seigneur, avec nous, malgré nos faiblesses, malgré nos lacunes, Seigneur. Et nous les mettons devant toi en te disant, Seigneur, viens à notre secours. Viens, Seigneur, et au secours de notre ignorance, de nos manquements, de nos lacunes, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu puisses arriver à terme dans le plan que tu as mis en place. Alors nous sommes confiants, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans la joie même de ce que toi tu prépares, Seigneur, et de ce que tu veux nous faire vivre. Lorsque nous voyons, Seigneur, les détails de ce que la première génération a vécu et comment les choses se sont passées, nous nous réjouissons de cela, Seigneur, et nous sommes réjouis de ce qui s'est passé, Seigneur, il y a 40, 50 ans, et nous nous réjouissons à l'avance de ce que tu vas faire, là, maintenant, au travers de cette nouvelle génération, au travers de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous fortifies les uns les autres, tu nous édifies pour cela, et nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen.